Chers amis, bonjour à tous. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Philippe Unemann pour la cinquième séance du séminaire consacrée cette année à la question des articulations du réel. Philippe Unemann est directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques de l'Université de Paris 1, où il est responsable de l'équipe philosophie de la biologie et de la médecine. Formé d'abord en mathématiques, Philippe s'est spécialisé dans la philosophie de la biologie, en particulier évolutive, et de l'écologie. Il a publié d'innombrables articles dans les meilleures revues internationales et conduit maints programmes de recherche sur des questions relatives au concept d'organisme, à la sélection naturelle, à l'écologie théorique ou aux modalités de l'explication biologique. Dans un registre un peu différent, il a aussi pas mal réfléchi aux théories du complot. Je rappellerai simplement qu'il est l'auteur de « Métaphysique et biologie, Kant et la constitution du concept d'organisme » qui met 2008, qu'il a codirigé en 2011 l'ouvrage paru aux éditions matériologiques « Les mondes darwiniens » avec Thomas Hames, Guillaume Lecointre et Marc Silberstein, et plus récemment avec Denis Walsh en 2017, « Challenging the Modern Synthesis » Oxford University Press, puis en 2018, avec Christophe Bouton, Temps de la nature, nature du temps, CNRS édition, et en 2020, un texte aussi érudit que stimulant, Pourquoi ? Une question pour découvrir le monde, chez Flammarion. Je suis, comme vous tous, je pense, impatiente de l'entendre sur une question des plus centrales pour le métaphysicien qui souhaite, en quittant le confort de son fauteuil, réfléchir aux articulations du réel et tout particulièrement au statut des espèces naturelles dans le domaine de la biologie, comme au sens qu'il peut y avoir, dans une ère post-darwinienne, à maintenir des principes de classification minimalement systématiques, comme ceux que pouvait encore avoir à l'esprit au XVIIIe siècle, aussi opposés puisse-t-il être sur le sens à leur donner comme sur la méthode à suivre, un Linné ou un Buffon. Ainsi, comment encore, tant le consensus anti-essentialiste semble aller de pair avec le darwinisme, songer à défendre un essentialisme, fût-il minimal ou relationnel, comme le rappelait Samir Okacha, qui proposera pourtant de le faire, mais en s'opposant dans le même temps à un essentialisme des propriétés intrinsèques à la Michael Davitt. Comment donner sens au concept d'espèce, kind, si, comme le pensent nombre de philosophes de la biologie, dont Hull ou Gislin, les espèces biologiques sont non pas des kinds, des espèces, mais des individus, et donc des entités historiques, limitées dans l'espace et dans le temps, et qui ont, comme y a insisté Marc Ereshevski, une généalogie. Peut-on aller au-delà d'un modèle de classification qui reposerait sur autre chose que sur des clusters homéostatiques, comme le pense par exemple l'élève de Putnam, Richard Boyd, pour qui les espèces de la biologie seraient bien des espèces naturelles, mais simplement du fait que si leurs membres ont en commun un cluster de propriétés plus ou moins semblables, elles se réunissent plus que tout, ce qui assure leur stabilité par la même tige, ou bien encore un réalisme qui se référerait, dans le meilleur des cas, à ce que John Dupré a appelé un réalisme de l'indistinction, promiscuous realism, un Dupré pour qui rien ne permet de dire que les espèces, excepté les taxa supérieurs, constituent des classes comportant des essences, ni même des classes précisément délimitées. J'avais évoqué un certain nombre de ces difficultés auxquelles se trouve sur ce plan confronté le métaphysicien lors des séances 7 et 8 de mon cours de 2014 consacré à la métaphysique des espèces naturelles, et j'avais fait alors quelques hypothèses et suggestions pour y répondre. C'était avant de lire la préface du regretté Jean Gaillon au livre paru en 2018 de Sophie Pecot, « Cladistique et évolution, une fondation problématique ». Si je tiens aujourd'hui à évoquer le nom de Jean Gaillon, c'est parce que je sais qu'il est aussi cher au cœur de Philippe Unemann qu'il l'est au mien, ne serait-ce que parce que nous avons partagé d'heureux moments à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, mais aussi traverser ensemble certains épisodes douloureux au sein de l'Association des Amis de Marie-Claude Lorne, qui avait écrit elle aussi de si belles choses sur ces questions, et notamment sur l'importance en philosophie de la biologie du concept de fonction. Quelques lignes donc de Jean Gaillon dans cette préface qui seront, je crois, une bonne introduction au thème que Philippe va, avec les redoutables compétences qui sont les siennes, explorer avec nous. La seconde moitié du XXe siècle, écrivait Jean Gaillon, a vu un regain d'intérêt majeur pour la classification des êtres vivants. Darwin, par son hypothèse de descendance avec modification des espèces, avait défini un nouveau paradigme de classification. Les caractères que les naturalistes considèrent comme montrant une véritable affinité entre deux espèces ou davantage sont ceux qui ont été hérités d'un parent commun, et pour cette raison, toute classification vraie est généalogique. La communauté de descendance est le lien caché que les naturalistes ont inconsciemment cherché. Toutefois, les pratiques classificatoires n'ont guère changé dans le siècle qui a suivi la publication de l'Origine des espèces. Comme le note justement Sophie Pécaud, ajoute Jean Gaillon, la méthode demeurait à trouver. Savoir que la systématique doit devenir phylogénétique ne signifie pas savoir comment elle le doit, ni même comment elle le peut. Quelles leçons fallait-il retenir de Darwin pour reconstruire la méthode classificatoire? Fallait-il s'appuyer sur les deux grands volets de la théorie darwinienne de l'évolution, ascendance commune des espèces et sélection naturelle? C'est la voie qu'ont empruntée la majorité des fondateurs de la synthèse moderne, notamment Ernst Mayr. Ou bien fallait-il ignorer les processus, comme la taxinomie numérique ou phénétique l'a fait de manière radicale en proposant de dissocier la classification exclusivement fondée sur des ressemblances entre taxons, sans tenir compte du processus même de l'évolution. Les phénéticiens, en l'occurrence, n'ont été et ne sont aucunement anti-darwiniens. Ils pensent que l'établissement d'arbres phylogénétiques exige que préalablement les ressemblances et dissemblances entre taxons soient mesurées avec la plus grande rigueur possible. Une troisième attitude possible, peut-être la plus littéralement darwinienne, quoique Darwin n'ait pas été très explicite sur ce point, était de fonder la classification sur une sorte de Darwin minimal, un Darwin dont on ne retient dans l'origine des espèces que l'hypothèse de descendance avec modification des espèces, en ignorant les processus qui expliquent le changement des espèces. Cette voie est celle qu'a suivie la cladistique ou systématique phylogénétique. Fin de citation. Mais elle-même, davantage méthode aux ambitions descriptives plutôt que prescriptives ou théoriques, a donné lieu, comme on sait, et donne encore lieu à de multiples controverses. Eh bien, à lire le résumé si stimulant qu'a proposé Philippe, je crois que nous avons de bonnes raisons d'attendre beaucoup des lumières qu'il saura nous apporter sur ces questions aussi passionnantes que difficiles. Espèces, taxa et classification. Cher Philippe, c'est à vous.
Merci Claudine et je vous remercie beaucoup de cette introduction. Ça va être très difficile de ne pas être décevant. Néanmoins, effectivement, et merci beaucoup d'avoir cité Jean pour des raisons aussi bien affectives que de grande pertinence pour le sujet. La citation que tu viens de longue citation que vous venez de faire est exactement au centre de mon propos, en fait. Il s'agira de la cladistique et de ce que ça implique, non seulement pour les espèces, je ne parlerai pas forcément directement des espèces, sinon à la fin, mais pour la question de savoir quels sont les groupes d'entités biologiques dont on peut considérer qu'elles existent. Alors, j'ai mis un petit sous-titre un peu amusant, simplement parce qu'il y a une façon de formuler cette question qui a à voir avec le fait que pour les cladistes, dont ici, enfin ici, pas très loin d'ici, c'est-à-dire au muséum, nous avons une sorte de grande d'avant-garde combattante, pour les cladistes, les poissons n'existent pas. ni les reptiles d'ailleurs. Et donc, ça pose des questions quant à la relation entre la métaphysique scientifique et ce qu'on peut appeler le sens commun ou ce qu'on a plutôt appelé l'image naturelle du monde. Alors, mon propos sera vraiment exploratoire par pas mal de côtés parce que je n'ai pas de thèse dessus, parce que j'ai pas élaboré grand-chose et je n'ai même pas d'idée de la manière dont ce que je pourrais penser pourrait se connecter à des formulations un peu rigoureuses et à des manières techniques de les trancher. Alors, je vais juste... Alors, le partage est en pause, pardon, faire passer sur le dessus votre... Bon, si, alors, voilà, apparemment, ça marche maintenant. Donc, quelque chose d'un peu anecdotique, mais qui rassemble bien une partie de mon propos, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec le fait que les légumes ne sont pas des genres naturels. Dans les légumes, il y a les tomates, les avocats, les pommes de terre, Donc, il y a des fruits, il y a des choses qui ne sont pas des fruits, il y a des racines, il y a des tubercules, ce sont des genres culinaires. Et donc, personne ne demanderait vraiment aux légumes d'attraper quelque chose qui a à voir avec la structure de la réalité. En revanche, poisson, les gens ont tendance à penser, si, souvent on explique aux enfants, le dauphin, ce n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Le fait est que les poissons n'existent pas, au sens où poisson n'est pas, et j'y reviendrai, un groupement qui est objectivement réel selon ce que David Lewis appellerait notre meilleure science. Et donc, il y a une question toute bête sur laquelle je reviendrai à un moment, qui est, est-ce que les poissons, c'est comme les légumes, on doit le mettre non seulement dans, on ne doit pas le mettre dans le même sac de course, mais peut-être que conceptuellement, il faudrait les mettre dans le même sac. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au rapport entre la science, la métaphysique et le sens commun ? Alors, tout cet exposé, comme la plupart des gens qui font des exposés de gens qui font de la philosophie de la biologie évolutive, est sous l'égide de cette phrase qui doit être l'une des plus citées de toute la biologie évolutive, « Nothing makes sense in biology except in the light of evolution », de Dobzhansky, qui « Rien dans la biologie ne fait sens excepté à la lumière de l'évolution ». Jean Gaillon, dans le passage que je citais, l'appliquait à classification, « Rien dans la classification biologique ne fait sens excepté à la lumière de l'évolution ». Et donc, en quoi ce motto éclaire les articulations du réel biologique, hein ? Ça va être la question que je vais poser. Alors, dans un premier temps, je vais faire quelques considérations très générales, faussement simples, sur la diversité biologique et les articulations. Alors, je suis désolé, la première partie sera un peu en anglais, sauf que les slides sont en anglais, parce que c'est ce que j'avais. Et, voilà. et les mots, donc, les deux concepts qui saisissent quelque chose de la diversité biologique, à savoir le clustering, la structuration en faisceau, et puis le branching, la ramification. Dans un second temps, je m'occuperai de ce qu'il en est des groupements réellement existants, à partir de la classification cladistique, qui est quand même maintenant très accepté parmi les biologistes. Et puis, je soulignerai quand même deux problèmes récents qui ne me semblent pas centraux dans ce propos-là, mais ils sont absolument centraux aujourd'hui. Donc, ce serait difficile pour moi de ne pas en parler, celui des phylogénies moléculaires et celui des transferts de gènes, lateral gene transfer, transfert de gènes horizontal. Et puis, je reviendrai de manière métaphysique à ma question sur le statut des entités et des groupements non existants comme les poissons. Et puis, j'essaierai de développer un petit peu à des considérations plus métaphysiques encore sur le rapport entre ces questions-là et la contingence évolutive. Alors, il est admis que la biologie évolutive s'occupe de diversité. On dit souvent la biologie évolutive essaye d'expliquer en gros deux choses, l'adaptation du vivant et la diversité. Il y a même des auteurs qui disent que ça donne deux sensibilités très différentes à la diversité, à la biologie évolutive. Néanmoins, la question de la diversité, ce n'est pas seulement qu'il y a beaucoup d'espèces de vivants, 10 millions ou 100 millions, on n'a même pas d'accord sur l'ordre de grandeur du nombre d'espèces existantes. Et le fait est que vu les espèces microbiennes qu'on ramène du fond des océans très régulièrement, ouais, les estimations hautes ont de bonnes chances d'être exactes. Mais la diversité n'est pas n'importe comment, ce n'est pas juste qu'il y a beaucoup d'espèces vivantes, c'est aussi que cette variété n'advient pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variétés, mais il n'y a pas énormément de nouveautés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'unités à travers cette diversité, ce n'est pas un constat darwinien, c'est un très vieux constat. C'est par exemple le constat qui a guidé des gens comme Geoffroy Saint-Hilaire et toute la morphologie transcendantale au XIXe siècle. l'idée que si vous prenez tous les squelettes de vertébrés, bah, ils sont plus ou moins tous des variations sur un même thème. Il y a à grande, grande différence, la crevette et la girafe, structurellement, ou plus exactement au niveau des connexions entre les parties, c'est exactement la même chose. Donc, les vivants sont souvent un, mais il y a, alors j'y reviendrai, mais il y a deux manières d'être un, et c'est quand même très important, ça a été vu avant Darwin, bien sûr, hein, c'est ce qu'on appelle l'homologie et l'analogie. Hein. Alors, pour analogie, il y a d'autres mots, il y a parfois homoplasie, mais je ne rentre vraiment pas dans les détails. Mais alors, avant Darwin, c'était l'idée que si vous prenez les ailes des chauves-souris et les nageoires des poissons, par exemple, c'est la même chose au sens que c'est la même structure avec des différentes fonctions. Si vous prenez les ailes des oiseaux et les ailes des mouches, c'est la même chose au sens où c'est la même fonction avec différentes structures. Et donc, homologie, c'est identité structurelle avec différence de fonction. Analogie, c'est l'inverse. Et ces deux types d'unités dans la diversité sont, encore une fois, sont absolument fondamentaux pour la biologie et pour la question de la diversité. Alors, je cite, je ne vais pas tout lire, mais c'est Darwin, hein, dans le chapitre 6 de l'origine des espèces, où justement, il va essayer de se demander ce que devient l'homologie, hein, dans la biologie darwinienne. La réponse, c'est que deux traits sont homologues si ils descendent tous les deux d'un trait chez l'ancêtre commun. Donc, la nageoire du requin, et puis ma main, et puis l'aile de l'oiseau. Hein, et donc, je cite en rouge, « Why on the theory of creation should there be so much variety and so little real novelty? Why should all the parts and organs of many independent beings, each supposed to have been separately created for its own proper place in nature, be so commonly linked together by graduated steps? Why should not nature take a sudden leap from structure to structure? » Et alors, la réponse, c'est « Natural selection acts only by taking advantage of slight successive variations. » Et donc, ce qui implique le gradualisme. Alors, plus maintenant, si je généralise un petit peu, il y a beaucoup de biologistes qui posent cette question-là de la diversité en pensant en termes d'espace des formes, hein, ou morphospace, qui peut… Alors, c'est très abstrait, personne n'a jamais réalisé un espace des formes intégral, mais vous pouvez le faire sur des parties de vivant, hein, par exemple sur les coquilles, sur les ailes, sur les poumons, sur… Et quand vous regardez un morphospace, il y a un premier fait qui est fondamental, qui est que ce morphospace est, alors comme on dit en anglais, clusterisé, hein, c'est-à-dire que la diversité n'est pas répartie de manière homogène, mais elle se concentre dans des îlots. Hein. Et ça, ça a été montré alors par exemple sur l'espace des formes des coquilles, hein, de coquillages. Vous avez, vous pouvez montrer que si vous avez trois axes qui correspondent à trois propriétés des paramètres qui génèrent ces formes, bah en fait, l'espace des formes sera rempli sur l'espace supérieur, dans le coin de l'espace supérieur gauche, le reste est vide. Hein. Et de manière de manière analogue, hein, si vous prenez les dinosaures, si vous regardez l'espace des formes possibles, il y a deux axes de formes sur des dinosaures sur ce graphique, vous allez avoir trois îlots de formes de dinosaures et rien entre. Alors, ça correspond aux dinosaures reptiliens, aux dinosaures aviens, et puis un îlot un petit peu différent à côté. Alors, c'est intéressant. Alors, historiquement, hein, il est clair que la biologie évolutive n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas réalisé cette affaire-là, à savoir que il y a des clusters de formes, ces clusters sont relativement isolés et tout ne passe pas dans tout. Il y a un très bel article de Mary Windsor là-dessus qui doit avoir une trentaine d'années, hein, où elle explique qu'en fait, avant ce qu'on a appelé rétrospectivement le fixisme, les espèces pouvaient être tellement proches les unes des autres que la question de l'évolution des espèces, de la transformation, ne pouvait même pas se poser. Et de manière plus générale, si on est par exemple individualiste et nominaliste comme Lamarck, c'est-à-dire si on pense que seuls les individus existent, est-ce que vraiment la question de l'évolution des espèces se pose? Non, en fait. Donc, Si vous voulez, pour que la question de l'évolution des espèces se pose et pour qu'ensuite on se dise il y a des faits qui attestent de l'évolution des espèces et qu'on se demande qu'est-ce qui l'explique, cette évolution des espèces, il faut qu'il y ait un statut spécial de l'espèce, d'une part, qui soit une catégorie taxonomique qui ait une certaine réalité. Le genre n'a peut-être pas forcément de réalité. Pour quelqu'un comme Lamarck, hein, par exemple, ou comme Buffon, la seule chose qui existe, c'est les individus. Donc, ni le genre, pardon, ni l'espèce, ni tous les taxa d'ordre supérieur, hein, l'espèce, la famille, le genre, l'ordre, n'ont de réalité. Pour les auteurs comme Darwin, l'espèce a une réalité. L'espèce a une réalité parce qu'elle a une réalité causale qui est le fait que deux conspécifiques sont conspécifiques si et seulement si ils ont un descendant et si ce descendant n'est pas stérile, ce qui veut dire qu'il y a une réalité causale du concept d'espèce. Et par ailleurs, il faut, pour penser l'évolution des espèces, que le continuum des formes d'espèces possibles ne soit pas intégralement rempli. Sinon, ce serait finalement pas si problématique. Le second point, c'est que cette diversité se pense comme ramifiée. Alors, je vais être un tout petit peu abstrait ici, puis je reviendrai à la biologie, mais si vous avez... cinq individus. Bon. Et vous les comparez en termes de similarité, et vous avez une métrique de similarité. Et donc, vous pouvez toujours poser des questions de qui est plus proche de qui que de qui. Ça va être la question c'est la question principale pour moi de tout ce qui concerne les bons groupes, enfin les articulations de la réalité biologique, ça. Selon moi, c'est ça le cœur de ce qui serait l'intuition cladiste pour cette question d'ontologie. Donc, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, hein, A et B, bon, les majuscules et les minuscules sont indifférentes. Dans mon exemple, hein, A et B peuvent être proches l'un de l'autre et C et DE proches l'un de l'autre. A, B, C peuvent être, et DE peuvent être plus proches l'un de l'autre ici, et puis A, B, C. Éloignés, etc. Alors, bien évidemment, ça va correspondre à des clusters, ça peut correspondre à des clusters. Hein, c'est-à-dire que des formes plus proches, des individus plus proches les unes des autres vont définir un cluster et vous aurez des clusters emboîtés, etc. Le fait est que quand vous commencez à classifier avec une certaine métrique de similarité, vous avez souvent des formes ramifiées, comme ici, hein, A et B, C, et ils sont plus proches l'un de l'autre, et puis A et D de part et d'autre. B, C et B sont plus proches l'un de l'autre, et puis A est plus proche de CB, et puis D est encore plus lointain, etc. Donc ça c'est quatre possibilités de ramification. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que il y a des conditions pour avoir des ramifications. Hein, et dans ces conditions, donc là, dans mon exemple, hein, vous avez CD qui sont plus proches l'un de l'autre que B, et B et CD sont plus proches l'un de l'autre que de B, et puis B et C et D sont plus proches l'un de l'autre que de A. Donc ça donne cette ramification-là, CD, et puis B, et puis A. Donc ce qui est effectivement ce qui est le résultat de CD sont plus proches l'un de l'autre que de B, et puis A est plus loin, et B, C et D sont plus proches ensemble que de A. Maintenant, si vous aviez B, C sont plus proches ensemble que de A et C, D sont plus proches ensemble que de A, vous avez besoin pour avoir ma ramification à quatre termes ici que B et D ensemble soient plus proches que de A. Et si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas de ramification possible. Autrement dit, dans toutes les possibilités de rapprocher, enfin de mesurer la distance de mes individus, là, de mes espèces, là, vraiment peu importe, les uns avec les autres, il y a des conditions pour obtenir un branchement, une ramification, comme ici, hein, vous avez là effectivement une ramification qui correspond à une classification, hein, très généralisée du vivant. Là, vous en avez une plus... uniquement les vertébrés, plus locales. Ici aussi, je vous donne juste quelques exemples. Et à chaque fois, le nœud, hein, quatre membres, famille otique, poils, deux ouvertures le long des yeux, etc. Le nœud vous donne le caractère qui va caractériser les taxa qui suivent, donc qui sont après l'apparition de ce nœud. J'y reviendrai. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cladogrammes généralement. Je souligne que quand on représente des grandes classifications, par exemple tout le vivant ou tous les végétaux, on les représente de manière circulaire. Hein. Vous avez dû voir ça au muséum, par exemple. Mais c'est une question de visualisation et c'est là pour éviter d'avoir des arbres qui ressemblent vraiment à des vrais arbres et donc qui ont l'air linéaires et où on a l'impression que l'évolution va en progressant. Hein. C'est un peu pour casser cette image-là. Structurellement, mathématiquement, c'est des arbres, hein, bien sûr. Alors évidemment, ces arbres, ils ont un ancêtre hein, qui est le schéma le plus reproduit de toute l'histoire de la biologie, hein, qui est ce qu'on trouve dans la biologie, dans l'origine des espèces, hein, le schéma de ramification du vivant que Darwin fait et où personne ne sait exactement ce que c'est les lettres et les nœuds et puis les chiffres romains en ordonnée, les lettres en abscisse représentent. On voit bien que c'est des lignées, certaines s'éteignent. D'autres prolifèrent, et que le tout ramifie, mais dans quelle mesure tout ça inclut ou pas des processus, dans quelle mesure ce que vous avez dans les nœuds, c'est des espèces ou ça peut être n'importe quoi. Ce sont des questions ouvertes, hein. Jean Gaillon a écrit là-dessus des choses assez intéressantes d'ailleurs. Les historiens de la biologie ont montré que ce diagramme avait lui-même un ancêtre, hein, qui était celui-ci, hein, dans les carnets de Darwin, où effectivement, la ramification était la ramification était bien visible, mais il n'y avait quasiment pas d'indication de ce qu'il y avait sur les nœuds. Alors ce que je veux dire, c'est que toutes les possibilités d'individus ordonnées en distance, hein, comme je donnais, sont pas possibles si vous voulez avoir une ramification. Et la chose qui donne la ramification, la réponse de Darwin, c'est l'ascendance commune. J'avais une toute petite note à la critique de la faculté de juger, mais là, j'en parle pas. On pourra revenir. Alors, cette longue introduction, c'était un peu plus qu'une introduction sur la manière dont la diversité du vivant est structurée. Elle me fait dire deux choses. Hein. La première, qu'à chaque fois, au fond, il s'agit de comprendre des faits dans l'espace des espaces possibles. Vous avez un espace des formes, hein. Vous avez un espace des formes possibles, et cet espace des formes possibles, il peut être structuré de plein de manières. Dans l'espace des espaces de formes possibles, ceux qui sont structurés en clusters sont assez rares. Idem, ce qui donne lieu à de la ramification sont assez rares. Qu'est-ce qui explique qu'il se trouve qu'avec le vivant, on a des clusters de formes qui sont comme ça, des espaces de formes qui sont comme ça, c'est-à-dire que l'espace de forme réel dans l'espace de forme possible est clusterisé, l'espace de N-uplet ordonné, si j'ose dire, réel dans l'espace de N-uplet ordonné possible est en ramification. Et est-ce que c'est la même question, hein? C'est une question totalement ouverte. Hein? Est-ce que vous pouvez avoir de la ramification sans cluster et des clusters sans ramification? Oui, hein, de la ramification sans cluster, c'est facile. Il suffit que les nœuds terminaux de toutes vos branches soient proches l'un de l'autre à volonté. Des clusters sans ramification, c'est possible aussi. Il suffit d'avoir beaucoup de réticulation entre les branches, mais pas n'importe comment, et vous allez avoir un espace clusterisé, mais sans ramification. Hein? Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le vivant, on a les deux. L'ascendance commune, c'est la chose qui vous garantit que vous allez avoir de la ramification. Est-ce que ça explique que vous allez avoir un espace de forme clusterisé ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Historiquement, ça recoupe la question de Darwin qui était, pendant très longtemps, il s'est demandé pourquoi il y a de la divergence, c'est-à-dire pourquoi les espèces sont de plus en plus différentes et les genres sont de plus en plus différents, et finalement, il n'y a pas de forme transitionnelle. Et il a longtemps hésité, au début, il attribuait ça à la sélection naturelle, donc évolution par sélection naturelle, ensuite, il a pensé qu'il y avait peut-être un principe supplémentaire pour expliquer les divergences. Mais je souligne le fait que vous avez deux questions, une question sur le clustering des espaces de forme, une question sur la ramification, qu'elles n'ont peut-être pas forcément la même réponse, et que quand on est darwinien, ce qui explique la ramification, c'est l'ascendance commune. Alors, Classifier, c'est donc faire des arbres. Et l'idée fondamentale, hein, c'est que le degré de similarité entre taxa, les taxa, c'est les choses qu'on classe. Ça, encore une fois, j'ai indiqué que l'espèce avait quand même un rôle assez, assez important, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Les degrés de similarité sont des degrés de proximité historique. Les degrés de similarité sont des degrés de proximité. La similarité se convertit en métrique. Et la thèse darwinienne, c'est que le degré de proximité est un degré de parenté, c'est-à-dire un degré de proximité de l'ancêtre commun. Il y a une petite différence entre la généalogie, où on se demande qui est le père de qui, et l'idée dyadique de la généalogie. A est le père de B, de la filiation, si vous préférez. Je ne m'occupe pas trop des termes. Et dans la phylogénie, ce dont s'occupe fondamentalement, c'est qui est plus proche de qui que de qui. Ce qui, historiquement traduit, veut dire vous avez trois termes, lesquels ont un ancêtre commun qui n'est pas l'ancêtre commun du troisième. C'est tous les vivants ont le même ancêtre commun. Donc là, on est d'accord, la question, ce n'est pas de trouver un ancêtre commun parce qu'on sait qu'on en a un. Mais si vous avez trois termes, il y en a deux qui vont avoir un ancêtre commun plus proche que le suivant. Alors, pour un tout petit peu spécifier comment on classe, on part des traits. Bon, alors ça, c'est des... C'est un peu artisanal, mais si vous avez des traits, ou alors plus précisément des caractères, ou même encore plus précisément ce qui s'appelle des états de caractère. Par exemple, un caractère, c'est la première molaire. Les états de caractère, c'est avoir un cuspide, deux cuspides, trois cuspides sur la première molaire. Ou pas avoir de première molaire du tout. Donc, vous allez... techniquement, c'est ça. Et donc, vous, une fois que vous avez des états de caractère, mes individus, c'est juste un triplet de caractères. Je dis caractère à la place d'état de caractère parce que là, c'est vraiment très, 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 très général. Ça, c'est A, B, C, D, de gauche à droite. Alors, le petit triangle rouge, il est commun à A, à C et à D. Le petit carré rouge, il est commun à personne, il est juste chez A. Le triangle rouge avec une croix, il est juste chez D. Et bon, alors, donc là, j'ai montré que dans mon affaire, B, il a un caractère commun avec A et un caractère commun avec C et aucun caractère commun avec D. Donc, il est plus proche de C et de A que de D. Donc, ça me permettrait de faire un arbre avec B, C et A qui sont proches et puis D qui est sur une autre branche. L'idée, c'est qu'à partir des caractères, on peut, et donc d'une matrice de présence-absence, d'une matrice d'état de caractère très précisément, on peut inférer des arbres. Bon, c'est la base de la systématique phylogénétique ou le cladisme, et donc l'objet fondamental, c'est la distance entre taxa. Une fois qu'on arrive à ordonner trois termes, on a donc un arbre élémentaire, si vous voulez. Faire un arbre élémentaire, c'est inférer des ancêtres communs. C'est-à-dire que A, si B et C sont plus proches l'un de l'autre que de A, B et C ont un ancêtre commun que n'a pas A, donc on l'infère. Cet ancêtre commun, bien sûr, n'est pas forcément A. L'ancêtre commun le plus proche n'est pas forcément A. Et donc, en dessinant vos arbres, vous inférez des ancêtres communs hypothétiques. Les arbres qui embrassent quelques espèces, en tout cas quelques taxa, sont des cladogrammes. Et ça, c'est ce que fait Hennig. Donc, l'initiateur de la cladistique, vous avez trois termes, A, B et C. Donc, Apfelbaum, le pommier, le magnolia et le ginkgo. Et le pommier et le magnolia, B et C, sont plus proches l'un de l'autre que du ginkgo. Donc, B et C ont un ancêtre commun. Au nœud X2, vous avez l'ancêtre commun hypothétique, qui n'est pas l'ancêtre commun de A. Et X1, c'est l'ancêtre commun de A, B et C. Alors, deux choses fondamentales. Le premier, c'est que à partir du moment où vous avez un ancêtre commun de B et C, cet ancêtre commun va avoir un trait qui est à lui, à B et à C, mais pas à A et à tous les autres. On appelle ça une apomorphie techniquement. L'ensemble des traits de B et C qui sont juste à B et C et à leur ancêtre commun s'appelle des synapomorphies. C'est un premier point. Le second point qui est absolument fondamental aussi, c'est que l'arbre et la hiérarchie sont la même chose. Une inclusion, c'est-à-dire B et C sont inclus dans A. Une fois que vous avez un arbre comme ça, ce diagramme le montre bien, vous avez une hiérarchie. Ce qui veut dire que l'ancestralité est aussi une relation d'inclusion. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, nous sommes bien évidemment des singes. C'est pas que nous descendons du singe. Si vous êtes cladiste, nous sommes des singes. Les oiseaux, les poules sont des dinosaures aviens. Il n'y a pas de problème, puisque les poules sont incluses dans le taxa des dinosaures aviens. Si vous avez des questions, si je ne suis pas clair, hein, jusque-là, c'est... Et alors, évidemment, l'arbre est temporellement orienté, hein, et plus on s'éloigne en arrière dans l'inclusion, plus on a des ancêtres et des ancêtres loin dans le temps et des apomorphies qui adviennent dans les temps reculés. Bon, ça je passe. Il y a un point important aussi qui est à partir de là que c'était dans Jean Gaillon en parlait, hein, avant Hennig. On mélangeait un peu des choses et on parlait de grades évolutifs. Hein. On allait dire, par exemple, voilà, dans tel lignage, les chevaux, par exemple, le cheval contemporain ou le cheval de près est plus évolué que son ancêtre. Ça n'existe plus dans le cladisme. C'est-à-dire, vous n'avez pas un axe selon lequel on compare selon le degré évolutisme. La seule chose qu'on a, c'est le cladogramme, là. Et avec la question, effectivement, quand vous en avez un élémentaire avec trois, c'est facile, mais quand vous avez des centaines de taxa à ordonner, vous devez faire des choix à pas mal de moments. Hein. Donc, en particulier, il peut y avoir des conditions pour pouvoir passer d'un cladogramme, la DBC, et puis de ABC. Est-ce qu'on peut en inférer un cladogramme, un oise serait l'ancêtre de D et puis de BC? Pas forcément, en fait. Alors là, je refais pas le raisonnement parce que c'est pas facile comme ça derrière l'ordinateur, etc. Mais il y a des clauses en plus pour pouvoir, à partir de différents cladogrammes, construire des arbres. C'est-à-dire qu'il y a des clauses sur ce que j'appelle la cohérence requise entre les cladogrammes, et puis ce qui signifie que vous avez des contraintes sur les méthodes de reconstitution d'arbres. Alors là, c'est des points épistémologiques extrêmement compliqués sur lesquels je ne rentre pas du tout, hein, mais il y a des méthodes en compétition, hein, les méthodes bayésiennes, les méthodes de maximum likelihood, les méthodes de parcimonie. Et puis, il y a pas mal d'auteurs qui disent que quand vous avez plusieurs méthodes qui vous donnent un arbre similaire, la robustesse de l'arbre indique que vous avez quelque chose, vous avez des chances d'avoir saisi le bon arbre. Alors, j'en viens un peu à la métaphysique. Deux conséquences fondamentales pour ce que c'est qu'un vrai groupe dans l'évolution biologique. Premièrement, le primat de l'homologie sur l'analogie pour la classification. Hein. C'est quoi, en termes évolutifs, c'est quoi l'analogie? C'est fonction, différentes structures, l'aile de l'oiseau, l'aile de la mouche. Ça se ressemble, mais c'est le résultat de pressions de sélection communes. Alors que l'homologie, c'est deux traits qui se ressemblent, qui peuvent être différents parce qu'ils n'ont pas la même fonction, mais qui sont structurellement identiques, c'est-à-dire qu'ils ont un ancêtre commun. C'est-à-dire que c'est des synapomorphies, c'est-à-dire que c'est, en termes cladistiques, hein, c'est hérité de l'ancêtre commun hypothétique de l'ensemble des espèces qui ont ce trait. Exemple, ma main, encore une fois, et la nageoire du dauphin, et d'ailleurs la nageoire du requin oussin, puisqu'on est tous des vertébrés. Pourquoi primat de l'homologie sur l'analogie? Parce que vous imaginez bien que si vous prenez en compte les traits analogues, par exemple, encore une fois, hein, le profil aérodynamique du requin et celui du dauphin, vous allez rapprocher le requin et le dauphin, alors qu'ils n'ont pas d'ancêtre commun proche. Hein, vous allez complètement fausser la classification. Vous allez introduire des traits, hein, si vous voulez, là, je reprends mon... Si vous incluez des traits qui sont... Inclure des traits analogues, c'est-à-dire dire ce trait, le nez aérodynamique du requin et du dauphin est un trait commun. Si vous dites ça, vous allez rabattre les branches les unes sur les autres et vous allez rendre impossible de reconstruire un arbre. Bon. Et par ailleurs, comme Darwin l'a déjà remarqué, hein, l'homologie est plus fine en fait. Hein. Pourquoi? Parce que si vous voyez des traits analogues, dans le détail, ça ne se ressemble pas beaucoup à une aile de mouche et une aile de colibri. Dans le détail, ça ne va pas se ressembler beaucoup à un œil de vertébré et un œil de mouche ou un œil de vertébré et un œil de poulpe. Pourquoi ça ne va pas se ressembler beaucoup? Parce que ça a été construit par la sélection naturelle en réponse aux mêmes pressions de sélection. Donc, en gros, ça se ressemble. C'est sûr que si vous voulez quelque chose qui regarde, ça peut se ressembler. Si vous voulez, enfin, qui voit par exemple un œil, si vous voulez quelque chose qui permette de nager dans l'eau comme… encore une fois, le museau des dauphins et celui des requins, bah, ça va se ressembler aussi parce que c'est des contraintes d'aérodynamicité qui sont des pressions de sélection. Mais comme la sélection naturelle travaille sur des matériaux très différents, puisque les ancêtres du dauphin et les ancêtres du requin sont très différents, au niveau de la structure fine de l'organe, ça ne va pas se ressembler. Alors, il y a un paradoxe hein, qui m'a toujours retenu, qui est intéressant, qui est que le darwiniste strict est adaptationniste. Hein, c'est-à-dire qu'il pense que la plupart des traits proviennent de la sélection naturelle, mais la classification donne le primat à l'homologie, donc sur des traits qui sont là par descente commune, pas qui viennent d'arriver par sélection naturelle, à l'analogie. Qui, à l'analogie, c'est encore une fois des traits identiques par sélection naturelle, du fait de la sélection naturelle. Deuxième point qui est fondamental ici, c'est quoi un groupement objectif? C'est le deuxième principe, en fait, à partir de ce que j'ai raconté de la classification. Bah, un clade, ce qu'on appelle un clade, c'est les descendants d'un taxon donné. Et le principe, c'est qu'un clade, j'aurais dû dire clade monophylétique hein, dans la première ligne, un clade monophylétique est un clade qui inclut tous et seulement tous les descendants d'un taxon donné. Donc un vrai groupe est monophylétique, un groupe objectif est monophylétique. C'est ça un groupe paraphylétique, c'est-à-dire un groupe qui n'inclut pas tous les descendants d'un même taxon, n'est pas un objet réel, en fait, n'a pas de réalité. Parce que il est complètement découplé en fait, de ce qui est la réalité évolutive. Hein. Exemple, hein, un groupe paraphylétique, c'est quoi? Bon, ben, ça, c'est mon arbre, assez artisanal. Hein. Là, c'est tous les descendants. Vous voyez ma flèche quand je ou pas? Donc, en rouge, entouré en rouge, vous avez un sous-arbre avec tous ses descendants. Ça, c'est un clade monophylétique, ça existe. Entouré en jaune, vous avez un grand, vous avez l'ancêtre tout en haut, hein. Et puis, vous avez un grand clade monophylétique avec tous ses descendants. Ça existe aussi. En vert, vous avez un ensemble de taxa qui font partie. Mais à chaque fois, vous n'avez pas les ancêtres de tous. Vous n'avez pas tous leurs descendants. Ça, c'est un clade paraphylétique. Ça, c'est un faux groupement, si vous voulez. Un groupement qui n'a pas d'existence réelle. Bon. C'est pour ça que les poissons et les reptiles n'existent pas, en fait. Parce qu'ils sont comme mon groupe en vert. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez l'ancêtre le plus... l'ancêtre récent commun de tout ce qu'on appelle les poissons, bah parmi ses descendants, il y a aussi tous les vertébrés terrestres. Donc, le groupe poisson n'est pas un groupe bien construit. Idem pour les reptiles. Hein. Si vous avez une classe que vous appelez les reptiles, hein, bon, qui est à moitié sur l'épidosaure et à moitié sur celui dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Je crois que c'est qui sort des dinosaures aviens. Vous avez... si vous appelez reptiles les crocodiles, les tortues, les serpents, les lézards, c'est un faux groupe. Le vrai groupe inclut les oiseaux. Mais c'est assez contre-intuitif de dire que les oiseaux, il y a un groupe qui est les lézards, les oiseaux, les reptiles, les tortues. Mais c'est le cas, en fait. Alors, donc c'est ceci pour vous dire que les groupes objectifs dans la classification sont des groupes, sont les clades monophylétiques. C'est ça qui existe. Et les clades monophylétiques sont parfois... en décalage avec les groupements existants. Alors, je passe sur deux problèmes qui sont quand même très importants, mais je les indique juste. Vous savez sans doute que beaucoup de phylogénies maintenant sont moléculaires. Bon, ça ne veut pas dire que toutes les phylogénies sont moléculaires. Hein. Il y a beaucoup de gens, en particulier au muséum, qui font de la phylogénie morphologique, hein, sur des caractères morphologiques. Alors, en général, on se dit, oui, mais les phylogénies moléculaires, elles sont plus objectives, hein, parce que je vous ai dit, pour l'ingrédient de base de la classification, c'est le caractère. Donc, on regarde, c'est vraiment l'histoire naturelle, on regarde les dents des vertébrés et on dit, là, la dent, elle a trois plaintes, là, elle en a deux. Là, la dent, elle a deux racines, là, mais une racine qui est de travers et là, non. Vous savez bien, il y a des gens qui disent, mais c'est quand même un peu… Est-ce que c'est vraiment très objectif? Si l'identification des caractères, des états de caractère au départ est mal faite, l'arbre est totalement non fiable. Il faut quand même se souvenir de ça. Alors, on se dit, mais si on regarde l'ADN des différentes espèces, la distance entre deux espèces, c'est quoi? C'est le nombre de nucléotides d'écart dans l'ADN de, par exemple, l'ADN nucléaire ou l'ADN mitochondrial, peu importe. OK. Et donc, on se dit, on pourrait avoir très facilement des distances très objectives. Et donc, à partir de distances, hein, et de distances triadiques, hein, A est plus proche de B que de C, on aurait des arbres et puis on reconstruit les arbres, etc. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait des milliers de phylogénies moléculaires, ça confirme une bonne partie des phylogénies morphologiques. Mais le fait est que ce n'est pas aussi objectif que ça, parce qu'il y a un énorme problème de calibrage. Le cas idéal, c'est le cas 1 dans mon dessin, où vous avez deux espèces, A et B, elles ont le même nombre de nucléotides. Mais c'est très rare. Souvent, non seulement il y a des mutations, donc ça c'est normal, c'est l'évolution, enfin on sait faire, mais il y a des délétions et des insertions de nucléotides. Ça veut dire que deux espèces ne vont pas avoir le même nombre de nucléotides, c'est l'image 3. Alors comment vous faites pour les comparer ? Bah, pour pouvoir les comparer, il faut faire en sorte qu'elles aient le même nombre de nucléotides. Et donc, il faut introduire des blancs, des vides, des gaps. Et ça, c'est l'image 4. Mais où est-ce qu'on doit les introduire ? Il faut tout un tas d'hypothèses pour savoir où les introduire. Donc, c'est ceci pour dire que la phylogénie moléculaire ne résout pas les problèmes de fiabilité des phylogénies non moléculaires. Alors, les phylogénies moléculaires, on peut en faire sur pas mal de choses. On en fait en particulier sur des gènes différents. On regarde pas mal d'espèces et on prend un gène. Par exemple, on l'a fait beaucoup pour les humains, on fait ça beaucoup sur l'hémoglobine. Et on regarde la composition nucléotidique, la séquence de ces gènes dans des centaines d'espèces. Et ensuite, on peut effectivement faire des arbres. Et le point intéressant, là, je vous ai pris quelque chose sur les souris, Mus musculus, sur le genre des souris, c'est que ces arbres sont relativement cohérent. Donc c'est dans l'article, il montre sur 3 gènes différents, vous faites des arbres, et les arbres des murins, de tout ce qui est espèce murine, ont tendance quand même à pas mal se ressembler. Mais pas complètement, pas à 100%. Alors, le deuxième point qui est fondamental et qui est récent, qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant, c'est le transfert de gènes latéral. On sait que les gènes sont… Alors, dans l'image darwinienne du monde, les gènes, c'est l'hérédité. On reçoit les gènes de ses ascendants. Il se trouve que chez les prokaryotes, on reçoit les gènes aussi de ses amis, de ses voisins, c'est-à-dire latéralement, pas forcément par réplication. Et c'est absolument crucial. Alors, c'est crucial pour plein de raisons, en particulier parce qu'une manière par laquelle les prokaryotes acquièrent des fonctions, ce n'est pas la sélection naturelle, c'est le fait qu'elles reçoivent des gènes. Ou une autre manière par laquelle pas seulement les prokaryotes, mais toutes les espèces ont acquis des fonctions, ce n'est pas la sélection naturelle, c'est la symbiose avec un individu, avec un autre individu, et cet individu a des gènes qui permettent de faire un certain nombre de choses, et l'hôte en profite. Et parfois même l'hôte a les mêmes gènes, mais il est père. Donc c'est absolument crucial dans l'évolution et dans tous les aspects de l'évolution, le transfert de gènes latéral. Alors effectivement, c'est fondamental chez les prokaryotes et chez les bactéries et les unicellulaires. Et là, de toute façon, les phylogénies sont surtout moléculaires, parce que morphologiquement, une bactérie, ça ressemble quand même à une autre bactérie. Chez les bactéries, c'est difficile à cause du transfert de gènes latéral, c'est assez difficile de définir l'espèce. Donc il y a une sorte de convention qui est que les deux espèces, deux individus sont identiques si elles partagent 70% de leurs gènes. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que quand vous avez beaucoup de transferts latéraux, vous avez dans votre arbre, vous allez avoir beaucoup de réticulations. Alors après, il y a il y a trois interprétations. La première, c'est les auteurs qui disent que, OK, mais c'est vrai que pour les prokaryotes. Après, vous avez un bel arbre qui est complètement darwinien parce que transfert latéral de gènes est négligeable. Vous avez les auteurs qui disent... cette affaire de transfert latéral de gènes rend très difficile de trouver le bon arbre parce qu'on fait à chaque fois qu'il y a réticulation, on doit faire tout un tas d'hypothèses supplémentaires pour comprendre, placer la réticulation dans l'arbre, plus les autres, toutes les hypothèses dont je vous ai parlé sur les hypothèses additionnelles sur les phylogénies moléculaires. Et donc, épistémiquement, on trouvera jamais l'arbre. Cette affaire rend la chose encore plus difficile que la phylogénie ordinaire, qui est déjà assez compliquée parce qu'il faut faire des analyses de robustesse sur au moins 3 méthodes. Et puis, vous avez des auteurs qui disent qu'il n'y a pas d'arbre. C'est-à-dire que... Parce qu'en fait, en gros, si vous regardez un gène, puis un autre gène, puis un autre gène, il n'y a rien qui vous dit que les phylogénies que vous construirez en prenant un gène, puis un autre gène, puis un autre gène, soient convergentes. Il n'y a pas de garantie a priori de ça. Il y a quelqu'un qui a beaucoup défendu chez nous ça, c'est Eric Batteste. À Paris 6. Je passe un peu ça parce que j'en viens quand même aux affaires un peu plus métaphysiques. Donc, mes questions voilà. ce qui existe vraiment, en tout cas si on tire les conséquences de rien en biologie, ne fait sens excepté à la lumière de l'évolution, c'est les groupes monophénétiques. C'est ça l'ameublement du monde en biologie. Donc, les légumes n'existent pas. Est-ce qu'on a le droit aux poissons ? Est-ce que, autrement dit, est-ce que dans l'image scientifique du monde, il n'y a pas de poissons, mais il y a une image naturelle qui, pour laquelle, ok, on sait que les légumes, ce n'est pas une vraie classe, mais quand même les poissons, oui. Je vous rappelle qu'en plus, les poissons, c'est aussi quelque chose qui sert à qualifier des départements de biologie, des projets de recherche en écologie. Ce n'est pas juste quelque chose qui a une visée pragmatique pour les pêcheurs. Hein. Si vous voulez, on pourrait dire, voilà, les poissons, c'est quelque chose qui intéresse le cuisinier et les gens qui cuisinent en général. Pardon, les légumes, c'est un genre culinaire, c'est totalement pragmatique, ça n'a pas d'existence réelle. La science vous dit ce qui existe réellement. John Dupré est quelqu'un qui a beaucoup poussé l'idée que non, la science, c'est une pratique sociale. Il y a un découpage en genre, la cuisine, c'est une autre pratique sociale, il y a un autre découpage en genre. C'est difficile de dire que les légumes n'existent pas si vous acceptez qu'il existe des... C'est un certain nombre de choses sur ce que c'est que la science, en fait. Et puis, il y a une vision intermédiaire qui consiste à dire, OK, les légumes, ce n'est pas un vrai groupement, mais dans la mesure où il existe des activités épistémiques qui, dans leur découpage du monde, prennent en compte les poissons. Encore une fois, hein, si vous faites des candidatures pour des budgets de recherche en écologie fonctionnelle, vous allez parler des poissons. C'est peut-être un peu bête ce que je dis, mais encore une fois, moi, je travaille avec des gens pour qui on édite, on publie, et des gens, des biologistes évolutionnistes, quand ils voient des manuscrits d'écologues qui font des trucs sur les réseaux trophiques et qui parlent de poissons, ils soulignent en rouge 10 fois et disent on ne peut pas publier ça quand même. Et donc, c'est une vraie question. Hein. Alors, c'est une question, si vous voulez, l'existence des poissons, c'est une question qui en fait, engage la question du rationalisme ou d'un certain type de pragmatisme ou du pluralisme. Hein. C'est-à-dire, soit vous dites que, encore une fois, il y a des activités qui ont un lien spécifique au vrai. Et ces activités vous donnent un accès au vrai découpage, aux vraies articulations du réel. Et là, les poissons n'existent pas. Quoi qu'en dise la pêche, quoi qu'en dise même, au fond, l'écologie marine. Hein. Soit vous avez des raisons de penser que la science est une activité parmi d'autres et qu'il y a plusieurs images du monde selon les différentes activités. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il faut, pour dire quelque chose sur l'existence des poissons, ou leur non-existence, il faut un argument additionnel à ce que peut vous raconter la biologie évolutive. Ça, c'est vraiment des arguments sur le statut de la science, en fait. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que c'est juste un parallèle, hein, mais vraiment, vraiment un parallèle. Hein, mais il y a une, vous savez, sur la question du non-sens, hein, Wittgenstein disait voilà, le verre est où et les nombres premiers dorment. Le verre est où, mais or, hein, pas la conjonction, pas le pronom relatif, hein, la conjonction de subordination. Entre le verre et où et les nombres dorment furieusement, on a l'impression que le second a plus de sens. C'est un non-sens qui a plus de sens que le premier, mais non. Les deux, c'est juste strictement aucun sens. Bon, ben là, c'est pareil. Hein, la thèse radicale vous dit, on a l'impression que les poissons existent davantage que les légumes, mais ça ne veut rien dire. Les poissons n'existent simplement pas, ni les reptiles, ni les légumes. Ce qui existe, c'est des groupes monophylétiques. Et ces groupes monophylétiques, au fond, ils ont la même fonction, si vous voulez, épistémique, que ce qui se passe avec les numéros atomiques dans les genres naturels en chimie. Hein. C'est quoi l'or ? C'est ce qu'il y a le numéro atomique 64. Alors, on peut en dériver certaines propriétés, du fait d'avoir ça comme numéro atomique, en particulier parce que c'est un atome lourd, etc. Il y a d'autres propriétés qu'on ne peut pas en dériver de manière... avec nos limitations cognitives. Hein. Et il y a d'autres propriétés qu'on ne pourra peut-être jamais en dériver. Est-ce qu'on peut dériver du numéro atomique 64 le fait que l'or soit cher ? Mais ça, c'est des questions concernant l'émergence, etc. Hein. Les dérivations infinies, ça, je laisse de côté. En biologie, ce qui joue ce rôle-là, c'est les groupes monophylétiques qui vous découpent, hein, les bons groupes. Et alors, les poissons et les reptiles n'existent pas. Qu'en est-il des animaux ? Ça, c'est très intéressant pour l'image du monde. Donc, les animaux, bon, effectivement, c'est un glade monophylétique. Hein, il est avec l'étoile hein, dans ma grande classification. Là, vous avez les bactéries, les archées, les eucaryotes. Et dans les eucaryotes, il y avait un tout petit truc, c'est les animaux. Bon, évidemment, les biologistes adorent ce genre d'image parce que ça relativise quand même beaucoup de choses. Hein. Bon, biologiquement, c'est quoi les animaux? C'est un groupe monophylétique d'organismes hétérotrophiques, et les apomorphies, c'est-à-dire les traits en commun, c'est une glycoprotéine spéciale sous la forme de collagène, la protéine kinase C pour le signal cellulaire, l'acétylcholine, la R-famide comme neurotransmetteur et certaines propriétés de la gamétogénèse. C'est ça les animaux. Bon, c'est amusant parce que ça tranche un petit peu avec ce sont des êtres vivants qui se meuvent par eux-mêmes, qui se nourrissent. Et en même temps, on peut réfléchir un petit peu. Vous avez les neurotransmetteurs. Bon, ça a à voir avec quand même le système nerveux des animaux. Hein. Le collagène, les glycoprotéines sous forme de collagène, ça a à voir avec le type de cellules des animaux qui est très différente des cellules des végétaux. Idem pour la protéine kinase. Donc oui, en fait, c'est très... On pourrait tout à fait en dériver certaines des choses qui sont, si vous voulez, dans l'image naturelle du monde, les animaux. Idem certaines caractéristiques de la gamétogénèse. Donc l'image biologique n'est pas totalement découplée de l'image naturelle, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est si vous voulez, ce que fait l'image scientifique du monde, alors, j'aime pas le mot, mais bon, elle déconstruit deux choses, hein. Elle peut déconstruire l'extension. Les poissons, c'est radical. Le concept de poisson a une extension nulle. Elle peut déconstruire la compréhension. Les animaux, ce n'est pas exactement quelque chose qui bouge et qui... quelque chose qui bouge, qui par soi-même, qui se reproduit, qui se nourrit, etc. C'est la chose dont je vous ai parlé là avec les différentes apomorphies. La définition biologique de l'animal, hein, qui caractérise dans le groupe monophylétique animal, hein, c'est-à-dire que les quatre apomorphies qui les définissent, permet d'inclure sans trop de problèmes les choses qui posent problème à l'image naturelle du monde, hein, par exemple les coraux, hein, les éponges. Oui, c'est bon, à partir de les coraux, ça a ça, donc c'est des animaux, il n'y a pas de problème, les champignons, non, ce n'est pas des animaux. Donc les synapomorphies en biologie jouent à peu près le même rôle que la structure moléculaire en chimie pour identifier les bons groupes. Alors, est-ce que je peux m'arrêter là? Je peux parler 5-10 minutes de plus pour de métaphysique. Bon. Donc, qu'est-ce qu'un bon groupe? Qu'en est-il des espèces? Alors, les espèces, il y a une très grosse littérature sur les espèces. J'ai un peu contourné. Hein. J'ai juste dit que les espèces devaient avoir un statut un petit peu différent. David Hull est connu pour deux thèses, hein, qui sont corrélées l'une plus faible que l'autre. La première, c'est qu'il n'y a pas de condition nécessaire et suffisante de l'appartenance à l'espèce biologique. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où vous reconnaissez le fait que la variation est première, que la pensée darwinienne est populationnelle, une espèce, c'est un ensemble d'individus variables, vous n'avez pas de conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance à une espèce. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous avez un dromadaire dont le bébé dromadaire n'a aucun des traits du dromadaire. Biologiquement, c'est un dromadaire puisque son père est un dromadaire. Point barre. C'est juste un variant un peu radical. Mais l'évolution se fait par les variants radicaux, si je veux dire. Donc, il n'y a pas de constitution nécessaire et suffisante d'appartenance à l'espèce biologique. Alors, évidemment, je vous ai dit, oui, il y a des synapomorphies qui définissent les groupes monophylétiques, mais ce sont des propriétés, c'est pas des propriétés des individus, des propriétés des groupes. Si un individu n'a pas la synapomorphie en question, c'est quand même... bon, il ne va peut-être pas vivre très longtemps, mais c'est quand même, il appartient quand même à ce groupe puisque son ancêtre, son père, l'individu, sa mère, est dans le groupe en question. Et la thèse plus forte, c'est que les espèces sont des individus. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ce groupe qui est tel? Si l'espèce est une classe, selon David Hull, que serait ce groupe qui est tel qu'il n'existe pas de conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance au groupe? En fait, c'est un individu, c'est pas une classe. Il a un début dans le temps, il a une fin dans le temps. Ça a cette conséquence un peu contre-intuitive que les espèces ne sont pas des genres naturels, puisque ce n'est pas des classes. La question des natural kinds, hein, en métaphysique, c'est une question concernant la spécificité de certaines classes par rapport à d'autres. Quelles classes sont fondées en nature, en fait. Bon, bah là, pour David Hull, bah, les espèces ne sont pas des classes fondées en nature, parce que ce n'est pas des classes. Les clades, les familles, les ordres, les genres, oui, mais pas les espèces. Qu'en est-il du reste? Je pense qu'il y a plein... Là, je vais vraiment lister des questions un peu compliquées qui sont... encore une fois, là, ça devient très exploratoire. Donc, depuis Kripke... En fait, ce n'est pas depuis Kripke, mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent pas à ça. Mais il y a une manière de penser le nom, la théorie de la référence, hein, donc le nom propre, comme référent non pas à un cluster de propriétés, mais à quelque chose de rigide à travers plusieurs mondes possibles. Hein, c'est-à-dire que quand je dis Gödel, hein, pour prendre l'exemple... standard de Kripke, si Gödel n'avait pas, si on me prouvait que Gödel n'avait jamais prouvé le théorème de Gödel, n'empêche que le mot Gödel référerait à Kurt Gödel et pas à quelqu'un d'autre. Vous avez une thèse qui m'intéresse un petit peu, hein, métaphysique, hein, qui est que ce qui définit l'identité d'un individu comme Gödel, c'est au fond son essence à avoir avec son origine. Hein. Par exemple, les parents et le moment de la conception, quelque chose comme ça. C'est ce qui est, parce que effectivement, quelles que soient les propriétés de ce Gödel, bah, il a les mêmes, il aurait les mêmes parents et ça permettrait, moyennant certaines clauses, une identification à travers les mondes possibles. Si les espèces sont des individus, alors si vous souscrivez à l'essentialisme de l'origine, alors vous avez un essentialisme de l'origine valable aussi pour les espèces. Mus musculus, c'est l'espèce qui a pour espèce ancestrale, j'ai oublié le nom latin de l'espèce ancestrale, mais peu importe, il y a donc moins d'apomorphie, hein, que l'espèce ancestrale a moins d'apomorphie, puisqu'il faut au moins une apomorphie supplémentaire pour faire une espèce descendante, que Mus musculus. Alors évidemment, vous avez un vague dans le commencement de l'espèce, parce que personne ne sait exactement quand commence une espèce, il faut plusieurs conditions, il faut une barrière reproductive, mais ça ne suffit pas forcément. Oui, c'est ça, il faut une barrière reproductive, mais des fois, les deux espèces commencent avant. Il y a des gens qui veulent des clauses de différence de morphologique. Bon, peu importe, il y a du vague là, mais après tout, il y a bien du vague dans ce que c'est que le commencement d'un animal, hein, d'un individu animal. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour les autres taxa, hein? Les autres taxa, c'est-à-dire au sens les genres, les ordres, les familles, les taxa supérieurs à l'espèce. Voilà, il y a des auteurs qui pensent qu'il n'y a pas de taxa supérieur et inférieur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, ça s'appelle rank-free phylogeny. Et donc, vous avez juste tous les, hein, si vous voulez, il y a des auteurs qui disent, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, mais que là, dans celui-ci, là, au fond, ça n'a aucun sens de distinguer les espèces, les espèces, les genres, les familles, etc. À chaque fois, il s'agit d'un nœud et de tous les nœuds qui découlent dans l'arbre, point barre. Mais ça, c'est la rank-free phylogeny. Bon, quand on reste dans les phylogénies classiques, bon, il y a quelque chose de spécifique à l'espèce, encore une fois, parce que les individus d'une même espèce se reproduisent quand même, que pas les individus d'une même famille. Pour terminer, en fait, je veux rattacher ça à une chose assez importante qui occupe les philosophes de la biologie pas mal, hein, qui est qu'en est-il de, justement, la contingence dans l'évolution, hein. Je vous ai dit la question de ce que c'est qu'un groupe, ce que c'est qu'un bon groupement comme une espèce, ou comme en tout cas c'est un groupe monophylétique, mais métaphysiquement comment ça se pense, est-ce que par exemple ça a à voir avec une régularité sur les mondes possibles. Et bien alors là, si on pose cette question là, on se pose des questions sur ce qui est possible en évolution et ce qui est possible en évolution. On rencontre la question de la thèse de la contingence de l'évolution. Alors, Stephen Jay Gould est célèbre pour pas mal de choses, mais aussi parce qu'il a soutenu l'idée qu'au niveau de la méga-évolution, c'est-à-dire que pas juste l'évolution dans une espèce ni même dans un genre, hein, mais l'évolution sur de très longues échelles de temps, l'apparition des mammifères, la disparition des dinosaures, l'apparition des plantes à fleurs, l'apparition de l'oxygène via le fait que les cyanobactéries ont diffusé de l'oxygène pendant 1 milliard d'années dans l'atmosphère. Ça, c'est la méga-évolution. Et Gould est célèbre pour avoir souligné le fait que, à cette échelle-là, l'histoire de la vie est sensible à des catastrophes, du genre les éruptions volcaniques, les météorites qui tombent, ce genre de choses, qui sont, du point de vue de la vie, pas évidemment du point de vue de l'astronomie, mais du point de vue de la vie, totalement contingentes. Et donc, des choses comme l'explosion de l'ordre des mammifères, hein, qui est due à l'extinction des dinosaures, qui est due à la catastrophe de la collision avec un astéroïde, ça, c'est totalement contingent. Et donc, l'évolution telle qu'on voit, et donc, si vous voulez, les groupes monophylétiques tels qu'on les voit, dans notre monde actuel, n'ont pas lieu dans d'autres mondes possibles, ont lieu dans très peu de mondes possibles. Et à ça, un corollaire, c'est ce que Beatty a appelé la thèse de la contingence évolutionnaire, qui est cette chose très simple que tous les faits évolutionnaires dépendent de lois, entre guillemets, qui sont elles-mêmes fondées sur des faits contingents. Il y a une chose très simple à laquelle on ne réfléchit pas. Quand on apprend l'évolution, on pense one-mandel. One-mandel, ségrégation, donc on prend un gène du père, un gène du père, un gène de la mère à 50%. Okay, ça suppose qu'il y a un père et une mère. Ça suppose qu'il existe la reproduction sexuée. Les lois de Mendel sont la base des modèles de base de la génétique des populations. C'est pour ça que c'est quand même assez important. S'il n'y avait pas eu de reproduction sexuée, et pendant très longtemps il n'y en a pas eu, c'est un résultat relativement contingent de l'évolution, il n'y aurait pas de loi de Mendel, il n'y aurait donc pas tout ce qu'on appelle, une bonne partie de ce qu'on appelle les lois de l'évolution. Donc il y a cette contingence-là qui fait qu'il est très probable que dans pas mal de mondes possibles, tous les arbres dont on parle n'ont pas lieu d'être. Alors j'ai presque terminé, mais il y a une question, là il y a une vraie question qui, à mon sens, touche vraiment cet aspect de la rigidité de la désignation des groupements, entre guillemets, natural kinds biologiques à travers les mondes possibles. Donc, pour Gould, par exemple, tout son livre Wonderful Life est consacré au schiste de Burgess, hein, qui est un gisement paléontologique, dans lequel on a trouvé des fossiles dont on s'est rendu compte très longtemps après avoir fouillé le site et excavé des spécimens, que quand on reconstruit, on a des animaux qui sont là, hein, qui n'ont rien de commun avec les plans d'organisation qu'on connaît. Et Gould, alors bon, maintenant, de nos jours, les deux seuls dont on pense qu'en fait, ils n'ont rien de commun avec les plans d'organisation qu'on connaît, c'est, je crois, Pikaia, hein, celui qui a l'air d'une anguille, et Anomalocaris, je crois. Mais bon, Gould a des pages pour dire tous ces animaux étaient très bien adaptés, la sélection naturelle n'avait pas de raison de les détruire. Si, autrement dit, s'ils ont été détruits, s'ils ont disparu, et si d'autres, dont nous, sont apparus, c'est par hasard. C'est sans doute une sorte de catastrophe ou de cataclysme marin, hein, qui a fait une sorte de tirage au sort pour savoir qui, parmi les plans d'organisation existants, allait périr et qui allait subsister. Ceux qui ont subsisté, c'est nos ancêtres. Ça aurait pu être d'autres, parce que c'est vraiment du tirage au sort. Donc ça c'est la contingence de l'évolution. Alors, je me souviens qu'à l'époque du film Avatar, hein, il y avait un Thomas Himes, hein, pour ne pas le nommer, qui est un collègue et ami, qui avait écrit une petite tribune dans Le Monde en disant « C'est bien, c'est sympa, Avatar, mais c'est n'importe quoi parce que ces créatures, s'il existe de l'évolution sur une autre planète, il n'y a absolument aucune raison qu'elles aient deux bras, deux jambes et qu'à part le fait d'être bleues et de mesurer 3 mètres 5 ou 5 mètres de haut, elles nous ressemblent. C'est parce que l'évolution est totalement contingente, donc il y a une chance sur des milliards que l'évolution donne lieu à ça. » Ce à quoi avait répondu un autre ami qui est Jean-Baptiste André, qui est biologiste darwinien très orthodoxe, fichérien à Montpellier. Et Jean-Baptiste avait dit « Oui, mais en fait non, parce qu'il est fort probable que si l'évolution étant dirigée par la sélection naturelle, en gros, quelle que soit votre planète, si vous avez des choses qui se répliquent, il va falloir qu'elles trouvent des ressources. Pour trouver des ressources, il va falloir qu'elles aient tout un système d'exploitation des ressources. Il va falloir qu'elles évitent d'être les ressources d'autres individus, donc il va falloir qu'elles aient des systèmes pour éviter les prédateurs, il va falloir qu'elles aient des systèmes pour covarier avec l'environnement, parce que c'est la seule manière de trouver des ressources dans un environnement qui est un peu variable. Et donc elles vont avoir des détecteurs, elles vont avoir des choses qui vont ressembler à des sens, l'environnement avec beaucoup d'espèces alentour va devenir complexe, elles vont avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a nous pour naviguer dans les environnements complexes, qui est ce qu'on appelle l'intelligence, enfin, mind en anglais, et ainsi de suite. Et donc, au fond, c'est comme si l'évolution était toujours attiré par des espèces de grands attracteurs qui étaient, en gros, les grandes adaptations possibles pour faire en sorte que quelque chose comme la vie soit soutenable. Et donc, au fond, l'évolution, si elle a lieu ailleurs, serait peut-être pas si... Bon, évidemment, on n'aurait pas Avatar, hein, probablement pas, mais serait peut-être pas si différente de la nôtre. Il ne serait pas absolument surprenant de trouver, par exemple, des choses sensibles à la lumière. Après tout, les yeux ont évolué 22 fois indépendamment, quand même, c'est beaucoup. Même des choses volantes, les ailes ont évolué 17 fois, je crois, indépendamment, hein, sur Terre. Éventuellement, même des esprits, puisque c'est une question ouverte. Hein, si le poulpe, qui est quand même très loin de nous, a quelque chose comme un esprit, très loin de nous phylogénétiquement, il est probable que quelque chose comme un esprit a évolué de manière indépendante plusieurs fois. Donc, ces choses-là seraient comme des attracteurs, et l'évolution irait sur des attracteurs. Ce qui voudrait dire que, oui, il y a peut-être des groupes quelque chose qu'on pourrait penser comme des groupes monophylétiques qui sont un peu comme l'or, qui seraient pensables dans différents mondes possibles. Hein? Alors, si Gould a raison, si l'évolution est totalement contingente, hein, vous ne pouvez pas penser quelque chose comme un clade qui serait identifiable à travers différents mondes possibles, hein, Gödel, oui, l'idée, c'est que Gödel, vous pouvez désigner à travers différents mondes possibles, mais évidemment, Gödel, c'est toujours un homme dans l'exemple de Kripke. Hein, donc, vous avez quand même une clause forte qui soutient son identité à travers les mondes possibles. Si Dawkins et tous les adaptationnistes a raison, alors il faut que je branche mon ordinateur, je suis désolé. Alors, mais j'ai presque terminé, il existerait des vrais groupements identifiables à travers les mondes possibles, et on tombe sur un problème philosophiquement intéressant, qui est que la définition de ce que c'est qu'un groupe objectif est totalement, elle est cladiste, c'est par les synapomorphies, elle ne fait donc pas de référence directe à la sélection naturelle. La définition de ce qui serait, par exemple, les entités pourvues de détecteurs de lumière à travers tous les mondes possibles, c'est quelque chose qui serait identifiable à travers tous les mondes possibles, parce qu'il existe beaucoup de mondes possibles où l'évolution donne les mêmes des choses avec des détecteurs de lumière, bah, ces groupes seraient définis par des adaptations communes, donc des analogies, donc pas des synapomorphies. Donc on n'est plus du tout dans le schème en fait darwinien d'identification des groupes objectifs. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'étais pas trop soit trivial, soit technique, soit. Je voulais souligner deux trois choses. Hein. Donc l'une des questions que j'ai abordées avec, en soulignant que la réponse n'appartient pas à la biologie, c'est le contraste dans la biologie évolutionniste. Les autres biologies qu'on appelle parfois fonctionnelles et la vie pratique, que les questions ontologiques sur le statut du concept d'espèce dont j'ai parlé à la fin sont assez différentes des questions épistémologiques sur ce qui fait espèce dont je n'ai pas parlé du tout. Est-ce que c'est par exemple le fait d'avoir des individus qui sont interféconds? Ah, mais ça, non, le manque de peau, ça ne marche pas pour les bactéries, il y a plein de problèmes archi connus. Et voilà, et le rôle qui reste central malgré tout dans toutes ces affaires du concept et du rang taxonomique de l'espèce.